Amen, gloire à Dieu. Voilà, nous poursuivons la méditation d'il y a 15 jours, en cheminant avec les disciples, et je crois que le Seigneur n'en a pas fini avec nous, et il veut nous conduire toujours plus loin, toujours plus profond. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Luc chapitre 24, et nous lirons à partir du verset 44. Luc 24, 44. Puis Jésus leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Nous sommes là dans les derniers moments. Jésus va bientôt remonter au ciel, et les disciples sont là également. Nous avons suivi ensemble le parcours des disciples, depuis Emmaüs jusqu'à Béthanie, et nous verrons ensemble ce matin la dernière étape pour les disciples qui étaient là, c'est de Béthanie à Jérusalem. Au-delà même d'étapes géographiques, il y a un cheminement spirituel que les disciples ont suivi et qui a été ponctué d'expériences profondes, d'expériences puissantes qui les amenèrent à considérer, à se détacher plutôt de toute considération humaine et les amener dans une vision spirituelle. C'est le grand travail du Saint-Esprit, de nous amener à ne plus voir les choses d'un point de vue naturel, mais d'un point de vue spirituel. Et ça, c'est un travail que le Saint-Esprit veut accomplir au-dedans de nous, au-dedans de chacun d'entre nous, parce que souvent nous avons une vision humaine des choses de Dieu, des choses du royaume de Dieu, et ça ne peut pas se caler. C'est impossible. D'ailleurs, Paul le dira, qu'il y a inimitié entre la chair et l'esprit. Et donc, sortir de pour aller vers. Voilà, nous retenons cela. Je crois que le Seigneur veut nous amener à faire des expériences spirituelles. Nous en avons tellement besoin. Ce n'est pas une théorie, la parole de Dieu n'est pas une théorie, une théologie seulement, mais elle nous amène à des expériences pratiques, concrètes, réelles, qui bouleversent notre vie. La parole de Dieu a ce rôle de sanctification, ce rôle puissant dans nos vies pour nous amener à réaliser ce qui est écrit. La vision humaine en tant que disciple nous amène à des approximations et à une déformation. Et je pensais à cet aveugle que Jésus avait conduit à l'extérieur, et il lui a imposé les mains et il lui dit « Vois-tu quelque chose ?» Et cet homme dira « Je vois des hommes, ils sont comme des arbres et ils marchent. » voyez la vision déformée où l'humain est plus grand, où l'humain prend la place. Et Jésus lui impose à nouveau les mains, et cet homme dira « Je vois tout distinctement ». Voilà notre grand travail, que les Écritures puissent devenir pour nous révélation, que l'Écriture puisse devenir pour nous réelle, puissante, que ce qui est écrit, eh bien, puisse toucher notre vie, notre cœur, dans les circonstances dans lesquelles nous vivons. Nous n'avons que la parole de Dieu et le Saint-Esprit, et je crois que c'est largement suffisant, c'est à la hauteur de toutes les situations que nous pouvons traverser. Je crois que dans n'importe quelle situation, et nous le verrons, nous pouvons, eh bien, rencontrer le Christ, et il peut nous sortir d'eux pour aller vers. De toute façon, c'est un pèlerinage, d'étape en étape, comme Abraham, mais notre destination finale, c'est le ciel. C'est là où Jésus nous prépare une place, donc, pour chacun d'entre nous. Cette vision humaine peut aller jusqu'à contrecarrer le plan de Dieu, complètement être à l'opposé du plan de Dieu. Voyez, avec la même parole, avec le même Seigneur, eh bien, si nous ne sommes pas régénérés par l'Esprit, l'Esprit de révélation qui s'empare de nos vies, nous pouvons même contrecarrer le plan de Dieu. Et nous avons l'exemple de Pierre dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, l'exemple de Pierre qui dira, quand Jésus va parler de ses souffrances, va parler de la crucifixion, Pierre dira, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». Il l'a dit avec une bonne intention, avec des sentiments humains, mais il était à l'opposé du plan de Dieu, c'est-à-dire qu'il faisait le plan du diable. Et Jésus lui a dit, mais arrière de moi Satan, tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. C'est le grand combat, c'est ce que nous avons besoin de réaliser ce matin, que nous pouvons avoir la parole, nous pouvons aimer le Seigneur, mais nous tromper aussi. Que Dieu nous aide à avoir cette bonne vision. Et pourtant, disciple du Seigneur, mais Pierre ne comprenait pas les Écritures ni le plan de Dieu. Il faudra que le Seigneur les amène plus loin et plus profond. Mais c'est ce que le Seigneur se propose aussi avec chacun d'entre nous. Nous amener toujours plus loin et plus profond. Parce que sinon, si nous ne comprenons pas les Écritures d'une manière spirituelle, nous restons dans notre marasme. Nous restons dans nos problèmes, nos difficultés, nos états d'âme. Peut-être, je ne sais pas, notre angoisse, j'en sais rien. Mais si nous ne comprenons pas les Écritures d'une manière spirituelle, et nous allons voir ensemble d'une manière aussi pratique, comment le Seigneur se propose aussi de nous amener, eh bien, d'eux vers quelque chose. En tous les cas, dans cette incompréhension des Écritures, eh bien, maintenant, les disciples, comment se trouvent-ils ? Dans la tristesse, la déception, la crainte, l'angoisse, le mal-être, malaise, ces disciples d'Emmaüs, Jésus va marcher avec eux, ils ne vont pas le reconnaître. Est-ce qu'il ne nous arrive pas de ne pas réaliser que le Seigneur est à côté de nous ? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de ne pas réaliser que quand nous prions, Jésus est là ? Et Jésus leur dira, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour être si triste ? De quoi vous entretenez-vous ? Les Écritures, quand elles sont révélées, eh bien ça nous amène à nous entretenir de choses spirituelles. Ben sinon, si nous nous entretenons de choses négatives, eh bien notre état sera la tristesse, la déception, l'amertume, le mal-être. Mais le Seigneur veut nous amener à une compréhension, un éclairage des Écritures pour nous amener à le louer, pour nous amener à le célébrer, pour nous amener à témoigner de sa grâce, parce que la révélation de ses paroles nous éclaire et nous amène nous-mêmes à être des lumières. On chante que Jésus nous suffit, mais il ne suffit pas de le chanter. Il faut que ce soit une réalité. Jésus nous suffit quand ou quand tout va bien, quand on n'a aucun problème, aucune adversité. Là, Jésus nous suffit. Non, Jésus nous suffit dans notre vie telle qu'elle est. En tous les cas, il est à la hauteur de toutes les situations. Et en lui, nous aurons toujours la délivrance, la paix, l'espérance, la joie. En lui, nous avons ces choses. Il n'y a pas d'effort démesuré. Il nous suffit d'ajouter la foi à l'Écriture. Et nous avons, eh bien, ce Christ tout-puissant. Il a fallu qu'il sorte de cet état pour aller vers un autre état, les disciples. La vision humaine des choses, comme je le dirais, eh bien, les maintenait dans des calculs, des idées préconçues, des préoccupations, de l'agitation intérieure. Mais quand le Saint-Esprit les a touchés, quand le Saint-Esprit nous touche, nous saisit, cela nous amène dans une paix profonde, dans une joie, dans une satisfaction, peu importe l'environnement. Quand nous croyons ce qui est écrit au sujet de Jésus et à notre sujet, mais cela devrait nous transporter d'allégresse, dans nos cultes, nous transporter d'allégresse, dans notre vie de tous les jours, d'avoir cette joie profonde. Mais, imaginez, non, réalisons que le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, se propose de marcher avec nous, d'être avec nous, de nous bénir, de nous conduire, de nous éclairer, de nous délivrer. Le Roi des Rois, c'est plus que le plus grand dans ce monde. Le Roi des Rois, Jésus, a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et il se propose, est-ce que nous le réalisons? Non, si on le réaliserait, mais nos cœurs bondiraient de joie. C'est pas la peine de s'agiter, mais à l'intérieur de nous, nos cœurs se bondiraient de joie. Et la louange, eh bien, elle jaillit de notre cœur. Que le Seigneur nous aide à réaliser cela. Souvenons-nous que les faits étaient là. Les faits étaient là. Jésus avait été crucifié. Jésus, le troisième jour, est ressuscité d'entre les morts. Le tombeau s'est ouvert. Le ciel était ouvert et a donné Jésus. La pierre a été roulée. Il nous est dit que les disciples ont reconnu à un moment Jésus pendant qu'il fractionnait le pain. Il y a eu tout cela, c'était des faits réels. Mais les disciples, dans quel état étaient-ils? Dans la tristesse, enfermés, barricadés dans une maison. Ils n'avaient pas réalisé la portée des Écritures, la portée du plan de Dieu. Ils ne l'avaient pas réalisé. Sinon, ils ne seraient pas dans la crainte enfermés, mais ils seraient dans la louange. Et c'est ce où Jésus les a amenés pour les faire sortir d'une chose, pour les amener à quelque chose d'autre. Ils étaient barricadés et pourtant tout était accompli sur la croix. Tout. Et voyez dans quel état ils étaient. Nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses. Nous avons la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a été répandu. Et pourtant, des fois, nous demeurons dans une tristesse, dans un mal-être. Pourquoi? Parce que le Seigneur se propose d'être le Seigneur de notre vie. Et nous restons. Tout est notre rapport avec l'Écriture. Tout est dans notre rapport avec l'Écriture. Parce que le Saint-Esprit, il est en collaboration avec l'Écriture. Il est en coopération avec l'Écriture. Le Saint-Esprit nous rappelle les paroles de Jésus. Et c'est tout est dans notre rapport avec l'Écriture. Que Dieu fasse que l'Écriture devienne pour chacun d'entre nous esprit et vie, comme elle l'est en réalité. Que Dieu fasse que le Saint-Esprit puisse utiliser cette parole pour la placer sur notre cœur et que nous comprenions quel est le plan de Dieu. Jésus nous appelle à le suivre. Il nous appelle d'expérience en expérience, de gloire en gloire. Il nous appelle à sortir d'Emmaüs pour aller vers Béthanie et finalement aller jusqu'à Jérusalem. Il nous appelle les uns et les autres. Nous avons tout devant nous, et même plus que les disciples. Vous savez que nous avons un privilège encore plus grand que les disciples. Est-ce que nous le réalisons cela? Vous allez dire, oui, mais les disciples, ils avaient Jésus à côté d'eux, mais il est parti, Jésus. Mais nous, nous avons un privilège encore plus grand. Pourquoi ? Parce que nous avons l'Écriture complète, jusqu'à l'Apocalypse. Elle n'y était pas, il n'avait que l'Ancien Testament. Nous, nous avons l'Écriture complète, jusqu'à l'Apocalypse. C'est un trésor inestimable. Un trésor, ça n'a pas de prix, l'Écriture, la parole de Dieu. Mais nous avons aussi le Saint-Esprit, parce que là, il n'était pas encore répandu. Le jour de la Pentecôte, il va être répandu. Or, nous avons ces choses. Hier, je visitais une famille, et à un moment donné, je sentais qu'il y avait un besoin spirituel, il y avait des cœurs simples, des cœurs ouverts, qui attendaient, et après quelques exhortations de la parole, eh bien, nous avons prié, et le Saint-Esprit est venu. Je bénis Dieu. Parce que quand il y a simplicité, quand il y a des cœurs ouverts, quand il y a des cœurs qui ne s'occupent pas de choses, mais qui s'occupent du Seigneur, on est comme un enfant sevré dans les bras de sa maman. Le Saint-Esprit agit et le parler en langue. Béni soit le Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur veut. Est-ce que nous nous habituons à notre vie, à notre routine, aux choses que nous voyons, que nous entendons, et rien ne bouge, rien ne change. Mais le Seigneur veut changer les choses et nous amener d'Emmaüs, c'est symbolique bien sûr, hein, d'Emmaüs à Béthanie et de Béthanie jusqu'à Jérusalem. Et nous verrons qu'avec le Seigneur, ça s'arrête jamais. Le parcours du Seigneur ne s'arrête jamais. Jésus dira, je cherche des adorateurs. Mais des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, dans Jean 4. Mais il nous faut, pour devenir un adorateur, il nous faut être dégagé, délivré. Il faut que le Seigneur puisse agir au plus profond de notre être. Il faut que le Seigneur puisse visiter nos cœurs. Il faut que le Seigneur puisse agir d'une manière puissante, afin que Jésus soit élevé dans notre cœur et prenne toute cette place. Un adorateur, Jésus a toute la place. Un adorateur en esprit et en vérité, que le Seigneur nous aide. Pour les disciples, eh bien, il y a un état nouveau. À partir du moment où Jésus les a touchés, où les Écritures sont devenues vivantes, ils se sont sentis concernés par l'Écriture. L'Écriture nous concerne. Il faut que nous puissions trouver bien sûr Jésus dans les Écritures, mais il faut que nous puissions nous y trouver aussi. Les promesses, elles sont pour nous. Ce que les disciples ont vécu, eh bien, pour nous aussi, bien sûr, il y a des faits qui sont établis, ça s'est produit qu'une fois, ça ne se produira pas deux fois. Jésus est mort qu'une fois pour toutes, il est ressuscité une fois, il est remonté au ciel une fois, le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte, il n'y aura pas deuxième Pentecôte, il y a des visitations, mais pas une deuxième Pentecôte. Mais par contre, toutes les expériences spirituelles, elles sont là pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus dans la fin des temps, ne pas imiter les témoignages négatifs des disciples, mais imiter ceux qui sont positifs, les expériences que le Seigneur leur a fait vivre aux uns et aux autres. Sinon, c'est la mort. Si nous lisons toujours, il n'y a rien qui se passe. L'Esprit veut agir au plus profond de notre cœur. Mais il faut, eh bien, voilà, il faut que le Seigneur puisse toucher notre cœur. Il retourne à Jérusalem. Il retourne à Jérusalem avec un cœur rempli de joie, un cœur rempli d'adoration, un zèle nouveau, une communion nouvelle. Au verset 50, il est dit, « Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. » Quand le Seigneur nous touche, tout change. Quand le Seigneur nous touche, ça change. Et il faut permettre à Jésus de nous toucher au plus profond de notre cœur. Laissons-nous dégager de tout ce qui encombre, et laissons le Seigneur venir nous toucher. Et voyez, la pédagogie, comme nous l'avons vu il y a 15 jours, la pédagogie du Seigneur, elle est inimitable. Il est le seul. Il ne les a pas repoussés, mais il les a conduits petit à petit, toujours avec les Écritures. Dans Luc 24, il leur parle des psaumes, de Moïse, etc., tout ce qui le concerne, dans l'Ancien Testament. Et le cœur a commencé à se réchauffer. Que ça commence par là aussi avec nous. Quand nous lisons les Écritures, que notre cœur commence à se réchauffer. Et puis, l'étape d'après, Jésus va les convaincre qu'il est vivant. Il leur montre les marques. Il les convainc qu'il est vivant. Et malgré cela, ils disent « Mais un esprit n'a pas de corps » et il leur propose de manger un morceau devant eux. Jésus ne nous condamne pas, mais il nous convainc. C'est la grande différence entre le diable et Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre et le diable est là pour nous condamner. Jésus ne nous condamnera jamais, mais il va nous convaincre. Il ne veut pas que nous puissions dire des choses qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas la réalité. Il ne veut pas que nous soyons « oui, je suis… » Non, il veut qu'il y ait une réalité. Le Seigneur a été vrai en tout lui-même et il veut qu'il y ait cette vérité en nous, que nous puissions vivre les choses que nous disons et que nous proclamons. À vol d'oiseau, de Béthanie à Jérusalem, il n'y a pas beaucoup, il doit y avoir 5 kilomètres à peu près à vol d'oiseau, mais que de cheminement spirituel les disciples ont-ils accompli. Voyez quelle différence il y a entre Jean chapitre 16 verset 5 et le passage que nous avons lu ce matin. Quelle grande différence! Regardez, dans Jean chapitre 16 et verset 5, voici ce que nous lisons. « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Et regardez maintenant que Jésus les a touchés. Jésus a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Regardez dans Luc 24, 52, « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. » Vous voyez, Jésus était avec eux et leur révèle un petit peu le plan que le Père allait accomplir. Et simplement le fait de dire « je m'en vais », ça les a remplis de tristesse. Et nous comprenons sur le plan humain, sentimental, ça les a remplis de tristesse. Mais regardez là, Jésus part effectivement et ils sont remplis d'une grande joie. Il y a l'Esprit de Dieu qui agit. Et on va le voir un petit peu plus loin, que le Seigneur nous aide. L'évangile de Luc commence avec une grande joie. Dans Luc chapitre 2, je ne sais pas si j'ai noté la référence, oui, Luc chapitre 2 verset 10, l'ange vient annoncer la bonne nouvelle qui sera pour le peuple le sujet d'une grande joie, la venue de Jésus. Et là, l'évangile de Luc se termine avec une grande joie. C'est formidable ce que le Seigneur fait. Jésus, il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il est là avec nous. Quand nous allons repartir, le Seigneur sera avec chacun. Et il n'est pas que là. Il bénit, bien sûr, quand le peuple est rassemblé, mais il est avec nous. Et nous, souvent, on n'est pas avec lui. Mais lui, il est avec nous. Et il veut nous amener à comprendre les Écritures. Il veut nous amener à comprendre la portée des Écritures, la puissance des Écritures, la vie qu'il y a dans les Écritures, afin que, eh bien, nous puissions être remplis d'une grande joie, remplis d'une grande espérance. Je ne sais pas, il y a peut-être des courriers que nous avons reçus qui... peu importe le sujet, mais certains nous peuvent attrister, mais d'autres qu'on reçoit, je ne sais pas d'où, peut-être vous avez reçu quelque chose qui a provoqué en vous une grande joie. Je ne sais pas, je ne crois de rien, mais qui a pu provoquer une grande joie. Pourquoi ? Parce que la portée des paroles qui ont été écrites, elle vous concerne. Elle concerne celui qui la reçoit. Et ça peut être un sujet de tristesse, mais ça peut être aussi un sujet d'une grande joie. Il y a quelque chose qui se passe. L'Écriture doit être pour nous le sujet d'une grande, grande joie. Le sujet d'une grande, grande espérance. Voyez, ça doit provoquer en nous quelque chose de dire, mais le plan de Dieu, il est merveilleux, il est glorieux. Mais vous rendez compte, alors que nous allons vers des temps qui ne sont pas merveilleux, je pèse mes mots parce que je veux heurter personne, mais voilà, nous allons vers des temps très difficiles. Pour les chrétiens, ça va être très difficile. On l'a déjà dit, on referme la parenthèse, mais pour les chrétiens, je parle sur le plan humain, mais sur le plan spirituel, Jésus revient pour chercher son Église. Et pour nous, au travers de tout ce marasme, je ne sais pas pour combien de temps, combien d'années, j'en sais rien, combien de mois, je ne sais pas. Mais le Seigneur revient chercher son peuple. Pour nous, c'est le sujet d'une grande joie. Vous allez dire, oui, mais s'il revient dans 20 ans, nous on est sur la terre. Mais bien sûr, mais vous savez, si pour ceux qui ne sont pas attachés au Seigneur, ce sera une surprise, la venue de Jésus, pour ceux qui l'aiment, eh bien ce ne sera pas une surprise. Il y a comme une préparation, il y a comme un avertissement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passera dans notre cœur, que Dieu soit béni, son plan est vraiment parfait. S'ils étaient restés dans la sphère humaine, ils auraient été remplis de tristesse. Mais maintenant qu'ils comprennent les Écritures, ils comprennent le plan de Dieu, alors ils comprennent ce qu'il y avait été écrit dans Jean 16, 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Maintenant ils comprennent ça. Jésus leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent. Ils comprennent que c'est avantageux que Jésus s'en aille. L'ascension, c'est avantageux. Plus avantageux que si Jésus était à côté d'eux. C'est plus avantageux. Et quand ils ont compris cela, eh bien, il y a eu un désir d'adorer Dieu, un cœur rempli de joie, une joie complète, une joie totale qui dépassait leur entendement. Alors pourquoi il vous est avantageux? Alors j'ai relevé quelques raisons, il peut y en avoir beaucoup plus. Mais pourquoi il était avantageux que Jésus s'en aille? La première, c'est parce que Jésus a terminé sa mission sur la terre et il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli avant de mourir sur la croix. Il a tout réglé pour le salut, pour le pardon, pour la plénitude du Saint-Esprit. Jésus a tout réglé, c'est parfait. Il n'est pas parti parce qu'il a eu affaire à des gens méchants. Il a eu affaire à des gens méchants, mais il n'est pas parti pour ça. Il est parti parce que c'était le plan de Dieu. Parce que c'était prévu comme cela. Parce qu'il devait partir, il a dit de la même manière que je suis venu, je retournerai au Père. C'était son plan. Et son plan aussi, c'est de revenir chercher son Église. Donc sa mission a été terminée. Deuxième raison, parce que... Son ministère céleste allait commencer. Et vous savez, quand on s'y penche un petit peu, bon, ça mériterait beaucoup plus de temps, mais quand on s'y penche sur le ministère céleste de Jésus, ministère au ciel, pour eux, voilà, Jésus remonte, mais ils ont compris que c'était avantageux, que ça allait être encore plus bénéfique que Jésus s'en aille. Ministère de Jésus au ciel. L'envoi du Saint-Esprit sur la terre, la Pentecôte, c'est parce que Jésus est remonté au ciel qu'il a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit promis par le Père ». Et il l'a envoyé. Ça, c'est le ministère céleste de Jésus. Enfin, Jésus va retrouver la gloire qu'il avait quittée. Et quand il va retourner au ciel, il va la retrouver. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 17, verset 5. « Et maintenant, dit Jésus, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Il va retrouver dans le ciel cette gloire. Quatrième point pour souligner l'avantage, l'ascension de Jésus, eh bien, va ouvrir le ministère d'intercession de Jésus. Je crois que c'est un côté où certainement nous négligeons un petit peu parce que le Seigneur nous ouvre les yeux, parce que rien que sur ça, le ministère d'intercession de Jésus en faveur de l'Église, en faveur de chacun d'entre nous. Il y a un ministère au ciel et nous trouvons cela dans Romains 8, 34 et 35. Il est dit « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Jésus prie jour et nuit pour nous. Mais rien que le fait, si on y croit, vraiment, sérieusement, si on croit que Jésus est en train de prier pour nous, pour l'Église, pour chacun d'entre nous, et si nous savons que Jésus est toujours exaucé, dans toutes ses prières, Jésus a toujours été exaucé, sur la terre, mais au ciel aussi. Mais réalisons, si nous disons, Seigneur, mais alors que j'étais en train de pleurer, toi, tu es en train de prier, d'intercéder auprès du Père pour moi. Ça change tout. Parce que nos prières à nous, elles nous semblent, des fois on n'a même pas envie de prier, on est tellement accablé, on ne sait pas. Mais de savoir que Jésus est en train d'intercéder auprès du Père, il plaide notre cause auprès du Père. Mais ça doit allumer quelque chose. Ça doit allumer un feu. Vous avez aussi dans Hébreux, si vous prenez des notes, Hébreux 7, 25, vous trouvez aussi ce ministère d'intercesseur de Jésus qui est entré une fois pour toutes eh bien dans ce tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Quelle grâce ! Les hommes, le diable peut-être nous accuse, mais nous avons un avocat qui intercède auprès du Père. Et lui nous justifie. Et qu'est-ce qu'il va montrer Jésus qui va pouvoir nous justifier ? Allez, c'est la seule question que je... Mais je vous demande une réponse. Qu'est-ce qu'il va montrer au Père ? Oui, au fond. Le ? Voilà, les mains, la croix. C'est cela, il suffit de montrer, je suis mort pour un tel, une telle, je suis mort, je l'ai racheté, j'ai payé le prix. Quel amour ! Quel amour, les hommes vont nous pointer du doigt, nous accuser. Le diable, bon, c'est pas la peine, nous accuse jour et nuit. Mais Jésus est notre avocat auprès du Père. Et il nous justifie. Il dit, même si on t'accuse, même si, ben moi je suis mort pour toi. Auprès du Père, tu as le pardon, tu as la délivrance, que son nom soit béni. Donc le ministère d'intercession, souvenons-nous de cela. Jésus est remonté au ciel. C'est toutes des grâces que nous avons. Et enfin, le cinquième, il y en a peut-être d'autres, hein, l'ascension de Jésus. Il est en train de nous préparer une place. C'est beau ça. Vous trouvez cela dans Jean au chapitre 14, versets 1 à 3, si mes souvenirs sont bons. Vous trouvez cela, Jésus dit, je m'en vais, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi, je vais vous préparer une place, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai vous chercher. Mais c'est beau, Jésus est en train de nous préparer une place. Quel amour ! Et cela devrait nous faire provoquer quelque chose en nous. Simple fait de lire, d'y croire et de se dire « Seigneur, mais quelle place formidable ça doit être !» Seigneur, déjà sur la terre, merci Seigneur pour le cadre dans lequel il nous a placés. Oh, on râle souvent de ceci, de cela, mais merci Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il fait. On croit que c'est naturel qu'on se lève, on respire, oui, c'est normal. Non, c'est pas normal, c'est Dieu. Ben non, c'est mon corps, c'est Dieu. Ah, vous ne dites pas Amen. C'est Dieu qui nous donne le souffle spirituel, mais le souffle physique. Quand il a décidé qu'on va déménager, ça s'arrête. Pour une adresse définitive. C'est lui qui commande. Donc il va nous préparer une place. Et enfin, au travers de son esprit, eh bien, Dieu peut agir maintenant sur toute la surface de la terre. Un autre avantage, un autre privilège, nous prions pour un chrétien chinois persécuté, eh bien, Dieu entend la prière et il agit. Oh, c'est naturel. Non, c'est pas naturel. C'est parce que Jésus est remonté au ciel. Quand il était là, il agissait là où il était. Mais maintenant, il est au ciel et il a répandu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est sur toute la surface de la terre. Et Dieu agit et nos prières, il les entend. Et il peut exaucer une prière faite pour quelqu'un qui a 10 000 kilomètres de nous. Que son nom soit béni. Permettons au Saint-Esprit d'avoir un accès et d'ouvrir notre intelligence spirituelle afin que nous comprenions les Écritures. Je ne parle pas de comprendre le français, de comprendre la syntaxe, de comprendre la terminologie, je ne parle pas de ça. Je parle de comprendre spirituellement, d'avoir la portée spirituelle, cette portée puissante quand nous lisons l'Évangile. Waouh, mais c'est trop beau, et que ça nous pousse, ça provoque une grande joie, une espérance, mais ça nous pousse à louer Dieu, à le louer. Alors, dans nos circonstances, que nous soyons remplis de joie. Mes frères, vous ne savez pas, vous, la circonstance dans laquelle je suis. Moi, je ne sais pas dans quelles circonstances les uns et les autres on est. Enfin, pour la plupart, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que dans les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, Jésus, d'une manière surnaturelle, peut remplir notre cœur d'une grande joie. Et ça, j'en suis mais convaincu. Bon, bien sûr, on l'a expérimenté les uns et les autres, mais qu'on l'expérimente encore davantage. Nous, on voudrait que les circonstances changent, que les gens changent, que les systèmes changent, mais c'est pas là que ça doit changer, c'est là. C'est là, parce que on peut pas, le paradis, il ne sera pas sur terre. Il faudra attendre le millénium. Mais le paradis, c'est pas possible. Le monde, il gît sous la puissance du malin. Et il y a des choses de plus en plus qui vont aller à l'encontre même du peuple de Dieu. Il y a des lois qui vont... Bon, vous en avez peut-être entendu parler, je veux pas m'apesantir dessus, mais qui vont aller, vraiment, ça va être très serré pour nous. On pensait que la persécution, c'était en Pakistan, en Chine, en Corée du Nord. Je vous l'ai déjà dit, il y a des années, mais ça vient, petit à petit, ça vient dans notre pays. Voilà, je referme la parenthèse. Mais moi, je n'ai pas peur de l'avenir. Et nous n'avons pas peur, parce que Jésus est notre Sauveur. Il est notre Seigneur, il est notre avocat auprès du Père. Nos vies sont dans sa main, mais qu'est-ce que les hommes s'agitent ? Mais le Seigneur est souverain. Et notre destinée, elle est dans ses mains. Alors, que nous puissions... nous avons des trésors spirituels, je le redis, je vais terminer. À portée de cœur. Je ne dis pas à portée de main, mais à portée de cœur, nous avons des trésors spirituels. Ne soyons pas comme des mendiants. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants. Il y a des richesses incommensurables pour chacun d'entre nous. Oui, mais moi... Non, regarde l'Écriture. Demande au Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit qu'il éclaire nos cœurs, que nous comprenions d'une manière spirituelle ce que l'Écriture dit. Et là, nous serons transportés. Au-dessus des difficultés, il nous transportera, comme il a transporté les disciples au travers des actes des apôtres. Est-ce qu'ils étaient tristes quand ils étaient persécutés ? Non, la Bible nous dit qu'ils racontaient les merveilles. Et certains disaient, ils ont été heureux d'avoir subi des outrages pour le nom de Christ. Alors ça nous dépasse. On se dit, mais comment c'est possible ? Mais c'est possible. Parce que le Seigneur est tout puissant pour le faire. Moi, je ne sais pas, à chaque situation, le Seigneur adaptera d'une manière spirituelle, il nous conduira. Alors, ces choses qui sont à portée de main, de cœur, c'est Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quand ? Maintenant, si on réalise qui est Jésus, si on réalise ce que l'Écriture, la portée des Écritures, si on réalise la puissance du Saint-Esprit, mais on va lui demander, on va lui dire, Seigneur, voilà, viens dans mon cœur. illumine les yeux de mon cœur, Seigneur. Parce que, ben non, c'est pas possible que je marche comme ça, c'est pas possible que je traîne comme ça en suivant le roi des rois et le seigneur des seigneurs, parce que ma destination c'est le ciel. C'est pas possible, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose dans mon cœur, qu'il y ait une expérience, un attouchement de Dieu dans ma maison, même au milieu de nous. Le Saint-Esprit peut visiter, comme je vous l'ai dit hier, le Saint-Esprit a visité, c'est quelque chose de tellement beau. Quand Dieu agit dans un cœur, il les toucha et il les bénit. Et à partir de là, alors vous avez d'autres promesses, bien sûr. 1 Corinthiens 14:1, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. Demandez, 1 Pierre 2:2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Sortir d'Emmaüs, sortir de notre maison barricadée, aller à Béthanie et ensuite, eh bien, arriver à Jérusalem, au temple. Sortons de nos schémas humains, de notre logique humaine qui ne fonctionne pas avec le royaume de Dieu. Il n'y a rien qui se passe et qui nous laisse au contraire dans la tristesse, la crainte, la déception, l'insatisfaction. Mais le Saint-Esprit ne nous laisse pas dans ces sentiments-là. Le Saint-Esprit nous soulève. La parole de Dieu nous transporte. Que Dieu soit béni. Souvenons-nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que les autres changent, que le monde change, que les circonstances changent, mais il faut que mon cœur change, dans notre cœur, dans notre esprit, avec Jésus, la parole et le Saint-Esprit. Là où nous sommes, sortons d'eux pour aller vers. Nous pouvons vivre des expériences extraordinaire. Oui, chez nous, avec la parole, à genoux, devant le Seigneur, nous pouvons vivre des choses vraiment fortes. Que le Seigneur nous aide. Pour adorer le Seigneur, en esprit, en vérité, comme je l'ai dit, il faut être délivré de tout ce qui est négatif, tout ce qui encombre, qui accapare notre esprit et notre cœur. Et il faut que notre cœur soit rempli de la parole, rempli du Saint-Esprit. En esprit, en vérité, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que la bouche parle, c'est de l'abondance, c'est ce qui remplit notre cœur doit pouvoir parler. C'est ce qui doit pouvoir parler. Alors que l'on ne s'habitue pas, même à la louange, que l'on ne s'habitue pas à dire des choses, mais que ça soit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Adoration à Jérusalem. Et ensuite, ils sont partis de Jérusalem pour évangéliser le monde. Vous voyez, avec le Seigneur, ça ne s'arrête jamais. C'est une étape, mais il nous mène toujours plus loin. Vous voyez, je conclue avec cela, mais notre premier état, notre premier service, entre guillemets, parce que, voilà, mais c'est l'adoration. Si on n'en arrive pas à adorer, ça va être difficile de servir. Jésus dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. » Et le Saint-Esprit nous amène à adorer Jésus. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont adoré le Seigneur dans le temple, ils le louaient de tout leur cœur, et de la contemplation, ils sont passés à la consécration. Contemplation, dans le temple, ils ont adoré, et ils sont passés à la consécration, ils sont allés servir le Seigneur partout, ils ont parlé de Jésus. Mais voyez, il faut que nous-mêmes nous changions les uns les autres, moi le premier et vous, il faut que quand on parle du Seigneur, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Si quand Jésus nous parle au travers de l'Écriture, il y a quelque chose qui se passe, quand nous allons témoigner, nous, il y a quelque chose qui va se passer. Frères et sœurs, il parlait comme ayant autorité. Dans les actes des apôtres, nous voyons des choses extraordinaires. Ils étaient de la même nature que nous, mais ils se sont laissés dégager de tout ce qui était négatif. Et même quand ils étaient persécutés, ils n'ont pas dit, voilà, Seigneur, vois leurs menaces. Voilà, il y a des menaces, mais donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, ils n'ont pas dit, on va faire un comité, on va aller défiler dans la rue pour les libertés chrétiennes. Non, ils se sont tenus devant le trône de la grâce. Ils se sont tenus devant le Seigneur. Vois leurs menaces, Seigneur. Toi, tu connais tout. Mais donne à tes serviteurs d'annoncer la parole. Et ils ont continué partout, avec la persécution bien sûr. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse dans ces moments. On va prier, je donnerai juste deux annonces. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons de tout notre cœur. Merci parce que ta parole nous redonne espérance. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous montre la voie. Ta parole nous révèle ton plan glorieux. Ta parole nous montre tous les bienfaits, les grâces que tu nous as accordées, qui sont à notre disposition. Et souvent nous sommes comme des mendiants, pardonne-nous, pardonne-moi Seigneur. Souvent nous ne sommes même pas conscients que tu es là à côté de nous, chez nous, dans notre travail, nous ne sommes même pas conscients que tu es là. Souvent Seigneur, quand il y a quelque chose, on veut se défendre, alors que Seigneur, toi, tu as dit que tu es celui qui nous justifie. Seigneur, fais-nous grâce, que nous passions notre temps à te bénir, à nous dire, à dire du bien de toi entre nous et témoigner de ta grâce au monde. Seigneur, que notre cœur soit rempli de ta parole, rempli du Saint-Esprit, rempli de la louange, rempli d'adoration. Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes choses, en tout temps. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis les familles que nous représentons, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Amen.